Alors, Valerio Bozza a bien voulu venir d'Italie pour nous parler. Il a travaillé avec notre confrère Gabriele Veneziano, qui fait des cours ici sur la théorie des cordes. Il a aussi travaillé sur les lentilles gravitationnelles, et notamment la lentille spectaculaire qu'est le trou noir géant au centre de notre galaxie. Et il va nous en parler. Alors vous lui direz, je vais suggérer de démarrer en français et de vous demander au bout de 3 minutes si vous préférez qu'il parle français ou anglais.
Alors, merci, merci. C'est un grand honneur pour moi d'être ici au Collège de France et parler et tenir une conférence devant ce public. Donc, je remercie le professeur Labéry pour cette invitation et pour cette opportunité de parler avec vous. Donc, comme le professeur vous a expliqué, normalement, je parle en anglais pour les séminaires que je fais autour du monde. C'est la première fois que j'essaie de parler en français pour un séminaire technique, un séminaire de physique. Donc, j'espère que ça va marcher. Et si ça devient trop rigolo, alors vous le dites et je tourne en anglais. De temps en temps, peut-être que je devrais chercher l'aide du professeur Labéry pour quelques mots que je ne connais pas en français, je connais seulement en anglais. Donc, je vais parler de ce grand trou noir au milieu de la galaxie. Excusez-moi pour la présentation, c'est en anglais parce que je ne pensais pas de parler en français, donc quand même, j'essaierai de faire la traduction. Pour toute la présentation. Donc, cet objet, ce grand trou noir qui est au milieu de la galaxie, c'est un des grands, grands mystères du dernier siècle pour l'astrophysique. C'est un des grands mystères qu'on a commencé à explorer au cours des dernières années, en commençant par 1990, peut-être. Donc, c'est une histoire très récente et c'est une grande opportunité de faire une investigation des trous noirs, parce que ça, c'est le meilleur exemple qu'on a des trous noirs près de nous. Et c'est un très grand trou noir, comme on va voir. Et donc, dans cette présentation, je vais vous présenter toutes les indications qui montrent que ça, c'est vraiment un trou noir, et un très grand trou noir. Et on va voir les opportunités d'investigation qui ont été ouvertes par la gravitational lensing, par la théorie des lentilles gravitationnelles, qui est une méthode très puissante pour l'investigation des trous noirs. Donc, on va commencer par trop loin, on va commencer par la planète Terre, depuis la planète Terre. Donc, j'espère que tout le monde a vu la Voie lactée, peut-être pas depuis Paris, parce que je pense que depuis Paris, c'est invisible comme par toutes les grandes villes du monde. Et quand même, quand on voit la Voie lactée de la Terre, en effet, on regarde notre galaxie, qui est composée de 300 milliards d'étoiles. Et le Soleil est ici, dans notre galaxie. Ça, c'est au milieu de la galaxie. Il y a les bras de notre galaxie qui ont la forme d'une spirale. J'espère que ça, c'est le mot en français. Et donc, au milieu de la galaxie, il y a un bulge, un nucléus, Oui, il y a un bar ici. Oui, c'est le centre de la galaxie qui a la forme d'un bar, comme ça. Et donc, le Soleil est à une distance de 25 000 années-lumière du centre de la galaxie. Et ce n'est pas au milieu d'un des bras, mais c'est cette onion spore qui est au dehors des bras principaux de la galaxie. Donc, on a vu que la structure de notre galaxie est une structure spirale avec des investigations très profondes. Mais on peut regarder cette structure dans la Voie lactée, dans le ciel, parce que si on fait une image panoramique de toute la Voie lactée dans 360 degrés, on peut voir qu'il y a le centre, il y a une région qui est plus lumineuse que le centre de notre galaxie. Et en fait, si on regarde, si on fait un zoom dans cette région correspond à les constellations de Sagittarius et de Scorpion. Et pratiquement le centre, le nucleus de notre galaxie correspond à 14 degrés dans notre ciel, et c'est cette carré ici. Et donc, si on va faire un autre zoom dans cette région, on regarde que le vrai centre de notre galaxie est complètement obscuré par la poussière. Parce que dans notre galaxie, il y a les étoiles, mais il y a beaucoup de poussière, beaucoup de gaz, et cette poussière obscure notre visuel vers le milieu de la galaxie. Et en fait, vous ne pouvez voir rien dans la direction du centre de la galaxie. Et si on fait un autre zoom dans ce carreau, en fait, ça correspond au centre de notre galaxie et on voit c'est seulement les étoiles qui sont très, très près de nous et qui sont devant la poussière, mais derrière la poussière, on peut voir rien du tout. Et donc, on ne peut pas regarder le centre de notre galaxie dans la lumière visible. Il faut changer la bande de spectre électromagnétique. Il faut aller regarder une autre bande. Et donc, si on regarde la même zone dans une autre bande, ça, c'est la lumière visible. Si on change la bande, on va dans la radio-onde, on peut regarder qu'il y a une structure très géante au milieu de la galaxie. Ça, cette image, c'est dans la même dimension de cette image dans la lumière visible. Ça, c'est la même dimension dans les radio-ondes. On peut voir qu'il y a une structure très riche au milieu de la galaxie qui est complètement invisible dans la lumière visible. Il y a une source très lumineuse au milieu de la galaxie qui a été appelée SGRA, Sagittarius A en anglais. Et donc, il y a aussi d'autres sources qui sont des boules qui sont les restes des explosions des stars géants, des étoiles géantes, des supernovas. Donc les supernovas, les étoiles qui ont terminé leur vie comme étoiles normales, à la fin de leur vie explosent comme supernovas. Et donc, il forme cette boule qui expande dans le milieu interstellaire. Et il y a beaucoup de cette boule, mais il y a des filaments comme ça, qui sont visibles dans les radios. Mais la chose plus spectaculaire, c'est cette très lumineuse source au milieu de la galaxie. Et la prochaine image correspond à cette ce très petit carreau au milieu de, que vous pouvez voir au milieu de cette image. Et donc, on va voir une image très profonde. Et si on fait un zoom dans ce très petit carreau, on voit qu'il y a une structure très particulière au milieu de la galaxie. C'est comme une galaxie en miniature, une spirale, une structure en forme de spirale qui est au vrai milieu de notre galaxie et qui est possible de voir dans les radio-ondes. Et ça, cette structure a été découverte dans le 1983, dans cette observation qui a été accomplie avec le Very Large Array, avec cette antenne qui observe dans la radio-onde et en Amérique. Et donc on peut voir qu'il y a cette structure en forme de spirale. Cette structure est composée de gaz, qui bouge avec grande vitesse autour du centre de notre galaxie. On va voir une autre image de cette structure en forme de spirale. Et cette structure en forme de spirale est en rotation autour d'une autre source qui est très très compacte, une source qui est pratiquement à la dimension d'un point. C'est vraiment très petite en dimension, mais c'est très lumineuse dans les radio-ondes. Et donc on va faire des mesures de vitesse de ce gaz qui est en rotation autour de cette source compacte, et on trouve une chose surprenante. On trouve que la vitesse de ce gaz qui est en rotation, c'est de l'ordre de 100 km par seconde. C'est une vitesse qui est surprenante quand on a cette vitesse dans une dimension d'une année-lumière. Parce que, par exemple, la vitesse du Soleil autour du centre de la galaxie, c'est de 200 km par seconde. Mais le rayon de l'orbite du Soleil autour du centre de la galaxie, c'est 27 000 années-lumière. Ce n'est pas la même chose d'avoir la même vitesse dans une orbite qui a un rayon d'une année-lumière comme ça. Donc, c'est une très grande vitesse pour cette structure. Et cette vitesse nous dit qu'il y a un champ gravitationnel qui est très très fort. Et ce champ gravitationnel est créé de cette source qu'on voit au centre de la galaxie. Et donc, si on fait des calculs, on peut estimer que la masse de cette source doit être de l'ordre de quelques millions de la masse du Soleil. Donc, on a ce premier résultat sur la masse de cette source très compacte au milieu de la galaxie. Donc, on peut chercher s'il y a si cette source bouge, parce que si cette source c'est si lourde, donc il ne doit pas bouger avec grande vitesse, parce que si on a une masse très grande, on espère que cette masse ne bouge pas très vite. Mais si la masse de cette source est petite, donc on espère que cette masse est perturbée par la présence des étoiles, de l'autre objet qui sont autour de cette source. En fait, on a fait des mesures sur le mouvement de Sagittarius A-star, qui est la source compacte qui est au milieu de la galaxie. Et on a vu que pratiquement cette source est complètement fixe. est complètement fixe. En respect comparé au centre dynamique de notre galaxie. Donc, ces deux lignes comme ça, pratiquement représentent le mouvement de Sagittarius Sesta. Et ça, ce mouvement est pratiquement expliqué par le mouvement du Soleil autour du centre de notre galaxie. Pratiquement, le Sagittarius Sesta est complètement fixe comparé au reste de notre galaxie. Et donc, ce fait est possible seulement si la masse de cet objet c'est de l'ordre de quelques millions de la masse solaire. Et donc, on a déjà deux indications très fortes sur le fait que cette masse est si grande. Une autre indication vient de la dimension de cette source, parce que on peut regarder cette source dans les radio-ondes, comme je vous ai dit avant, et on peut chercher de faire des observations à très haute résolution pour trouver la vraie dimension de cette source. Et donc, on a cherché de faire des observations dans différents différentes longueurs d'onde. Donc, on a fait des observations à lambda de 7 mm et on a trouvé un diamètre de 2 milliards de secondes. millième de secondes d'arc. On a répété les mêmes observations dans une différente longueur d'onde. À 3,5 mm, et on a trouvé une différente dimension. Donc, ça, c'est 0,5 millième de seconde d'arc. Donc, la dimension change avec la longueur d'onde d'observation. C'est ça une chose intrinsique ou c'est un effet observationnel? C'est un effet observationnel. En pratique, on a l'expérience que les radio-ondes sont dérangées de la présence de particules cariques. Donc, par exemple, on a l'expérience que quand on écoute la radio, il y a des tonnerres, la transmission radio est dérangée par l'émission des particules électriques dans notre atmosphère. Ça, c'est la même chose. Puisqu'il y a beaucoup de particules cariques dans le milieu interstellaire, alors les radio-ondes sont dérangées par ces particules cariques, en particulier électrons. Et donc, la dimension qu'on observe, ce n'est pas la vraie dimension de Sagittarius Sesta. Parce que cette dimension diminue comme la lambda carré. Et on peut observer cet objet. Et donc, c'est une illusion optique. Et donc, on a cherché de faire des observations à longueur plus en plus petit. Et le mieux qu'on a réussi à faire, c'est des observations à lambda 1,3 mm. Et à cette longueur d'onde, on a observé une déviation de cette lambda carré. De cette ligne de la lambda carré. On a trouvé cette déviation comme ça. Et donc, ça signifie qu'on a finalement trouvé une indication de la vraie dimension de Sagittarius Sesta. Et donc, on a pu estimer la vraie dimension de cette source, c'est 37 microarcosecondes. Donc, c'est une dimension extrêmement petite. Et ça, c'est un résultat qui a été publié sur la revue Nature dans l'année 2008. Donc, c'est une observation très récente. Et donc, on a la dimension angulaire de cette source. Cette dimension angulaire correspond à quelle dimension réelle, de quelle dimension physique. Ça correspond à la distance qu'on a vers le centre de notre galaxie, ça correspond à 45 millions de kilomètres. Donc c'est une distance très petite. Vous connaissez la distance de la Terre du Soleil, c'est 150 kilomètres. C'est 150 millions de kilomètres, ça serait trop. Et donc c'est moins que la distance de la Terre du Soleil. Et ça, c'est la dimension de cette source qu'on a au centre de notre galaxie. Donc, on change de la bande électromagnétique, on peut faire la même observation dans les rayons X. Et dans les rayons X, on a trouvé cette source Sagittarius A star à partir de l'année 2001 avec le satellite Chandra. Et on a découvert aussi qu'il y a des explosions très violentes, très fortes qui arrivent dans le centre de notre galaxie. Et donc la luminosité de Sagittarius A star dans les rayons X est très variable à cause de ces explosions. On peut faire les mêmes observations dans la bande infrarouge. Infrarouge, mais je pense que ça... On dit comme ça. Et donc, dans la bande infrarouge, on peut pénétrer la poussière galactique et on peut voir le centre de notre galaxie. Et on peut faire le même type d'observation. On l'a fait à partir de 1975. Et on a découvert qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles. On ne l'avait pas vu dans les radio-ondes parce que les étoiles n'émettent pas de lumière dans les radio-ondes. Les étoiles n'ont pas d'émission dans les rayons X, et donc on les peut seulement voir dans le visible ou dans la bande infrarouge. Et avec ces observations, il a été possible de voir que c'est un environnement très riche en étoiles qui est autour de Sagittarius A star. Et donc, il y a beaucoup d'étoiles. Et cette observation a été faite initialement avec la technique de l'interférométrie à tâche. C'est comme ça qu'on dit en français.
Speckle ou tavelure.
Comme?
On dit en anglais speckle.
Speckle interférométrie.
En français, tavelure. Interférométrie des tavelures.
Tavelure, d'accord. Je ne savais pas. Et donc, c'est une technique qui a été découverte par le professeur Labéry. Donc, aussi, sommes ici, on a pu faire ce type d'observation. Et donc, on a découvert qu'il y a beaucoup d'étoiles. Et on a cherché le Sagittarius A star dans la bande infrarouge. Dans la bande infrarouge, Sagittarius A star est particulièrement faible. Donc, il est très difficile de voir. Et on l'a vu seulement pendant les explosions qu'on regarde dans la bande X aussi. Et seulement il y a 2 ans qu'on l'a pu voir aussi dans l'état quiescent, donc l'état normal, l'état normal quand il n'y a pas d'explosion. Donc, disons quelques mots sur les étoiles qui sont autour du centre de la galaxie. Ces étoiles ont été appelées les S-stars. C'est un cluster d'étoiles, un groupe d'étoiles très, très intéressant parce qu'il y a beaucoup de mystères aussi sur l'origine de ces étoiles parce que c'est très bizarre qu'il y a des étoiles si massives, si jeunes au centre de notre galaxie, parce que c'est incroyable qu'il y ait la possibilité de former de nouvelles étoiles autour autour d'une très grande masse comme celle de celle-là de Sagittarius Star. Donc, il y a un autre mystère sur l'origine de ces étoiles. Et donc, vous pouvez regarder dans ce graphe ici qu'il y a eu la possibilité de suivre ces étoiles dans leur orbite autour du centre de la galaxie. Et pour 27 étoiles, il y a eu la possibilité de déterminer l'orbite avec une grande précision. Donc, on connaît les paramètres de l'orbite de ces étoiles, et des paramètres de l'orbite de ces étoiles, il y a la possibilité de calculer la masse de Sagittarius Star. Par exemple, S2 a une période de 15 années, donc il a contribué, donné le plus grand contribut pour la connaissance de la masse de Sagittarius Star. Ça, c'est parce que S2 ça s'approche jusqu'à 120 unités astronomiques à Sagittarius Star. Donc, ça va très, très proche de ce grand objet qui est au centre de notre galaxie. Et donc, on peut calculer la masse de Sagittarius Star, on peut trouver la plus précise estime de la masse de cet objet, et c'est 4 millions de masses solaires, pratiquement, avec une grande précision à la fin. Et donc, à la fin, on a trouvé deux observations. La première observation, c'est qu'il y a un objet qui a une masse de 4 millions de masses solaires, et c'est un objet très, très compact. Et de l'observation radio, on a pu estimer la dimension de la région qui est à l'origine de l'émission radio. C'est une région de 45 millions de kilomètres, c'est-à-dire une région comme ça, comparée à la distance entre le Soleil et la Terre. Et donc, on peut concentrer 4 millions de soleils dans cette région. Et on n'a aucune idée de stabiliser un objet comme ça. Et donc, il n'y a pas de mécanisme connu pour stabiliser un objet de 4 millions de masses solaires dans ce volume comme ça. Et donc, tout le monde pense que ça doit être un trou noir. Il n'y a pas d'alternative croyable. Donc, c'est quoi? Un trou noir, comment on peut faire à donner une description d'un trou noir? Alors, un trou noir, c'est un objet qui est défini par l'existence d'un horizon des événements. J'espère qu'on dit comme ça en français, un horizon des événements. C'est-à-dire que c'est une surface sphérique, et cette surface sphérique peut être traversée seulement dans une direction. Il peut être traversé seulement dans la direction entrante, il peut seulement entrer dans cette surface, et il ne peut pas sortir de cette surface. C'est une définition très simple de l'horizon des événements. Et on peut calculer, en utilisant la relativité générale, le rayon de cette surface, c'est le Schwarzschild radius, le rayon de Schwarzschild, et c'est une combinaison de la constante de gravitation, de la constante de la vitesse de la lumière et de la masse de l'objet central. Et donc, on peut dire que s'il y a une particule qui émet des photons comme ça, si la particule est dehors de l'horizon des événements, on peut émettre des photons dans toutes les directions. Mais comme la particule s'approche de l'horizon des événements, il est plus difficile d'émettre des photons dans la direction qui s'éloigne de trou noir. Et quand la particule Et dans l'horizon des événements, donc, il n'y a pas de possibilité de mettre des photons dans la direction en sortant de l'horizon des événements. Ça, c'est une vision simplifiée de la relativité générale et de la description des trous noirs. Donc, un trou noir est caractérisé par l'existence d'un horizon des événements. Et si on veut donner une preuve définitive de l'existence d'un trou noir, on doit donner une preuve de la réalité de l'horizon des événements. Et on peut chercher de faire ça dans le cas de Sagittarius Star. Et donc, on doit, pour faire ça, on doit étudier la théorie de lentille gravitationnelle. Parce qu'il faut avoir le complet contrôle sur ce qui arrive à la lumière qui voyage très proche du trou noir. Donc, la théorie de lentille gravitationnelle, c'est une théorie qui dérive de la relativité générale. En pratique, Einstein trouva que s'il y a un source qui est derrière le soleil, cette source apparaît en une position différente de la vraie position de l'étoile. On peut voir que la source apparaît deux secondes d'arc plus loin du Soleil. Et ça, c'est un effet de la déflexion des rayons de lumière qui viennent de l'étoile qui est derrière le Soleil et qui sont piégés par le champ gravitationnel créé par le Soleil. Donc, si l'effet pour le Soleil, c'est seulement de 2 secondes d'arc, on peut imaginer quel est l'effet qui est créé par des champs gravitationnels qui sont plus forts. On peut observer, par exemple, la déviation des rayons de lumière par effet des champs gravitationnels des galaxies. Et il y a des observations des quasars, des sources qui sont en distance cosmologique. Et on peut trouver beaucoup de cas de quasars qui ont été dupliés, pour lesquels il y a la possibilité d'observer deux images. Parce qu'il y a deux parcours pour la lumière qui sont permis par la déflexion gravitationnelle. Et en pratique, un observateur qui est ici peut regarder deux images identiques du même quasar. Et ça, c'est en effet normal pour la théorie de lentille gravitationnelle. Donc, on peut chercher d'imaginer les distorsions qu'on observerait si on a un trou noir comme lentille gravitationnelle. Et donc, on va faire cet exercice parce qu'on peut faire l'exercice en utilisant la relativité générale et en calculant la trajectoire des photons dans le champ gravitationnel d'un trou noir. Et donc, on part de loin, comme toujours. Si le rayon de la lumière passe très loin du trou noir, la déflexion, c'est très petite. Et en pratique, la déflexion, c'est inversement proportionnel aux paramètres d'impact. C'est comme ça, le paramètre d'impact, OK. Et je cherche toujours la confirmation de ce que je dis. Donc, normalement, la déflexion, c'est inversement proportionnel au paramètre d'impact, c'est-à-dire que si on va très loin, la déflexion devient zéro, et si on approche le trou noir, la déflexion croît. Mais si le paramètre d'impact devient plus petit, on peut avoir des déflexions spectaculaires par un trou noir. Pratiquement, on peut avoir des déflexions comme ça, pratiquement un angle carré. Et on peut avoir une déflexion comme ça, on peut avoir un photon qui fait un demi-tour autour du trou noir et retourne en direction de la source. Et ça, c'est appelé retrolensing. On peut avoir des photons qui font un complet tour autour du trou noir et vont dans la direction opposée. Et on peut faire encore deux tours, trois tours, et pratiquement même un nombre infini de tours autour du trou noir. Mais il y a un paramètre impact limite. Il y a une limite sur ce jeu. Et pratiquement, il y a un paramètre d'impact minimum par lequel le photon entre dans une orbite circulaire autour du trou noir. Et pratiquement, il est attrapé et il reste dans cette orbite circulaire infiniment. On doit aussi dire que cette orbite est instable. C'est pas stable. Pratiquement, et avec une petite perturbation, le photon tombe dans le trou noir ou va à distance infinie. Donc, les photons qui part avec un angle qui est plus petit que cet angle limite sont mangés par le trou noir. Et ce sont les photons qui tombent dans le trou noir. Donc, on peut faire un graphe avec la déflexion en fonction de l'angle de sortie par la source. Donc, θ, c'est l'angle de sortie par la source. Et il y a un angle limite, θm, et au-dessous de cet angle limite, il n'y a pas de déflexion parce que les photons sont mangés par le trou noir. Et si on va très loin à des angles qui sont très, très grands, on a une déflexion très petite, comme ça, qui est inversement proportionnelle de θ. Mais si on va très près de cet angle limite, on peut voir que cet angle limite, la déflexion suit une loi logarithmique. Pratiquement, on peut voir que ça, c'est une expansion de l'angle de déflexion dans cette asymptote ici. Et donc, il y a la possibilité de prouver que cette formule comme ça est valide pour tous les types de trous noirs. Tous les types de trous noirs, par exemple, tous les types de trous noirs qu'on peut dériver dans les théories de gravitation, même les théories de gravitation alternatives à la relativité générale. Donc, on peut prouver que cette formule est très générale. Et en principe, si on a la possibilité d'observer des objets, des images qui ont été formées par des photons qui suivent, cette loi, il y a la possibilité de dériver la valeur précise de ces coefficients A et B, et donc on pourrait dire quelle est la théorie de gravitation correcte par l'observation des images qui ont été formées dans ce régime. Donc, qu'est-ce qu'on devrait observer quand on observe un trou noir? Le discours de l'angle limite, donc je vous ai dit que si les photons sont émis par la source à un angle qui est inférieur de θm, les photons sont mangés par le trou noir. À l'inverse, un observeur ne peut pas observer des photons qui viennent de la région de θm. Moins de θm. Pratiquement, il n'y a pas la possibilité de former des images qui, dans un disque qui est à la position de trou noir, qui a un rayon angulaire égal à θm. Il n'y a pas la possibilité de former des images dans cette région. Donc, le trou noir apparaît avec une ombre. Une ombre dans le ciel. Il n'y a pas la possibilité d'observer des images dans la position de trou noir. Et toutes les images peuvent être formées à l'extérieur de cette ombre. Et donc, il y a la possibilité de former ces images qui sont formées par les photons qui accomplissent un, deux, trois tours autour de trou noir. Et ces photons forment des images, des séquences d'images sur tous les côtés du trou noir. Ça, c'est une chose qui est bien connue depuis longtemps. Mais ça, c'est une chose très importante parce que la forme de cette ombre est très importante pour connaître les paramètres du trou noir. En pratique, en relativité générale, on sait que les trous noirs dépendent de trois paramètres seulement, la masse, la carique électrique et le moment angulaire. Ah, d'accord, c'est le moment angulaire. Et donc, dans la forme de l'ombre du trou noir, on peut dériver la valeur du moment angulaire. En pratique, quand on a un trou noir en rotation avec un moment angulaire, l'ombre devient plus elliptique. On peut voir ici qu'elle est plus elliptique. Et à très grande valeur de moment angulaire, il devient comme ça. Il n'est pas plus circulaire de cet côté. Ça, c'est le côté des photons qui viennent dans notre direction. Donc, s'il y a des photons qui font des tours autour de trou noir, les photons qui sont en rotation dans le même verre de trou noir sont les photons qui viennent de ce côté de l'ombre de trou noir. OK. Donc, on peut mettre toutes les choses que je vous ai dit en théorie, on peut les mettre dans un ordinateur et on peut essayer de faire des calculs numériques pour le visage d'un trou noir, pour calculer le visage d'un trou noir. Il y a eu beaucoup d'études qui ont réussi à faire cet exercice. Par exemple, ça, c'est le visage d'un trou noir calculé par Dexter, Agol et Fragile. Et vous pouvez voir qu'il y a l'ombre du trou noir qui est très caractéristique, il n'y a pas d'objet astrophysique qui ont cet aspect. Et en particulier, cette ombre, et ce qu'on observe ici, c'est la lumière qui vient de la matière qui tombe dans le trou noir et qui est en rotation dans le disque autour du trou noir. Et donc, il y a un côté qui est plus lumineux parce que ça, c'est le côté correspondant aux photons émis par la matière qui vient envers nous. C'est pour ça que ce côté, c'est plus lumineux que l'autre côté. Et donc, ça, et vous pouvez voir ici qu'il y a aussi une partie de lumière qui contourne le trou noir, et ça, c'est l'effet que je vous ai dit des photons qui font des tours autour du trou noir et qui peuvent être observés de tous côtés du trou noir. On peut faire aussi des choses un peu plus compliquées avec des simulations des disques de matière qui tournent autour du trou noir. Ça, c'est une simulation que vous pouvez voir sur Internet, sur le site d'Armitage et Reynolds. Donc, ça, c'est le site où j'ai pris cette simulation. Et vous pouvez voir tous les effets relativistiques ensemble et voir l'aspect d'un trou noir qu'on pourrait voir si on a la résolution pour voir un trou noir dans ce détail. Donc, on devient Sagittarius Star. On a ce grand trou noir qui est le plus... Qui est dans la meilleure condition d'être observé en haute résolution parce que c'est un très grand trou noir. millions de masses solaires, et il n'est pas très loin comme les tornades au centre des milieux de d'autres galaxies. Parce qu'on sait qu'il y a des grands tornades dans le centre d'autres galaxies, mais elles sont très loin. La meilleure tornade qui peut être observée, c'est le Sagittarius Star des Sismes. Et donc, on a une émission de Sagittarius Star. C'est ça compatible avec l'émission qu'on expecte par la matière qui tombe dans un trou noir. Donc, on peut mettre ensemble toutes les observations. Ça, ce sont les observations qu'on a faites dans les radio-ondes. Ce sont des observations plus précises. Ça, c'est l'observation dans les rayons X. Et ça, ce sont les observations dans la bande infrarouge. Actuellement, avec l'observation de l'état normal, cette figure, ce n'est pas très actuelle, parce que ça devrait être mis à jour. On doit expliquer l'émission l'émission radio, l'émission X et l'émission dans l'infrarouge. Il y a des modèles qui essaient de faire cet exercice. Et le modèle, ces modèles disent que l'émission radio qu'on voit, c'est une émission de synchrotron, c'est-à-dire l'émission des électrons qui tournent autour des lignes magnétiques, des lignes de champs magnétiques autour de trous noirs. L'émission X vient de la radiation de freinement.
Freinage.
De freinage. OK, d'accord. La radiation de freinage et de la matière qui tombe sur le disque de matière autour de trous noirs. Et puis, il y a les explosions. Les explosions peuvent être expliquées par des blobs de matière qui étaient jetés dans un jet, comme ça. Peut-être qu'il y a des blobs de matière, de gaz qui tombent dans le disque, donc dans l'impact. Avec le disque, il y a c'est une explosion qui peut expliquer ce qu'on observe dans les rayons X. Et puis, il y a la troisième possibilité, il y a la possibilité d'avoir des fluctuations dans la luminosité du disque de matière autour de trous noirs. Tous ces trois modèles peuvent expliquer les explosions. Donc, il n'y a pas on ne sait pas quel est le vrai modèle qui explique l'émission de Sagittarius Star. Donc, les données qu'on peut discuter peuvent être expliquées par tous ces trois modèles. Et il faut avoir des observations à plus haute résolution pour comprendre les mécanismes qu'il y a pour l'émission de la radiation autour d'un trou noir. Ça, ce sont des articles techniques avec tous les modèles que vous pouvez imaginer sur le Sagittarius Star. Une autre chose surprenante sur le Sagittarius Star, c'est que Sagittarius Star est un starving black hole, c'est-à-dire un trou noir qui meurt de faim. Donc, ça, c'est une traduction littérale, je pense, de starving black hole. Ça, c'est un trou noir c'est un trou noir qui n'émet pas qui n'a pas la même émission des trous noirs qu'on observe dans l'autre galaxie, parce qu'on a des émissions beaucoup plus grandes par les trous noirs dans l'autre galaxie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matière qui tombe dans le trou noir et dans l'autre galaxie. Si on observe Sagittarius Star, on a une émission qui est très faible si on la compare avec l'émission d'autres trous noirs les autres galaxies. Mais il n'est pas certain si ça c'était toujours comme ça, parce que il y a été des études sur les nuages de matière, les nuages de gaz qui sont près de la trajectoire de ces stars, on a pu observer des échos des émissions de Sagittarius A star. En pratique, si en passé Sagittarius A star a une émission plus forte que l'émission actuelle, cette émission peut être enregistrée dans les nuages de gaz qui sont près de Sagittarius A star. Et donc, on peut regarder cette émission ancienne de Sagittarius A star enregistré dans ces nuages. Et en fait, ces études ont montré qu'il y a 500 ans, donc dans une période historique, que l'émission de Sagittarius A star devrait être 100 000 fois plus forte plus fort qu'actuellement. Donc, Sagittarius A star actuellement est dans une période relativement calme, mais ce n'est pas été toujours comme ça. Il y a eu des périodes dans lesquelles Sagittarius A star a été comparable au trou noir de l'autre galaxie. Donc, tout le monde voudrait regarder un trou noir comme ça, mais il faut une résolution exceptionnelle pour observer un trou noir comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut chercher de faire des observations dans les radio-ondes et on peut chercher d'améliorer la résolution et descendre la résolution plus petite, meilleure qu'un microseconde d'arc. Un microseconde d'arc. Parce que je vous rappelle que la dimension de Sagittarius, la dimension angulaire de l'émission de Sagittarius A star est de l'ordre de 37 microsecondes d'arc. Donc, si on veut regarder en détail, on doit descendre à résolution meilleure qu'un microseconde d'arc pour voir l'ombre de trou noir. Et donc, le mieux qu'on peut faire, c'est 10 microsecondes d'arc à 1 mm de longueur d'onde. Mais il faut, puisqu'on a le dérangement des électrons interstellaires, c'est difficile de améliorer ce résultat. Il faut aller à longueur d'onde plus petite. Mais il y a le problème que l'atmosphère terrestre n'est pas transparente. La longueur d'onde est plus petite qu'un millimètre, donc il faut aller à très haute altitude et peut-être même dans l'espace. Et quand même, il y a le développement d'observations en interférométrie intercontinentale pour chercher de améliorer cette limite. Dans les observations dans l'infrarouge, on a des télescopes géants de l'ordre de 8 mètres. Et ceux-là sont les télescopes, les VLT, qui sont sur le Cerro Paranal en Chili. Et ces télescopes peuvent marcher en combinaison interférométrique et dans l'infrarouge, en particulier dans la K-band, 2,2 microns. Et il aura la possibilité de faire ce type d'observation dans le 2014. La limite, c'est seulement de 3 millisecondes d'arc. Donc, c'est trop loin de ce qu'on voudrait faire, parce que c'est pire que dans les radio-ondes, naturellement. Mais quand même, il y a la possibilité de faire des observations astrométriques avec la précision de 10 microsecondes d'arc. Donc, ça, c'est important, parce que avec cette précision astrométrique, il y aura la possibilité de voir le mouvement de la matière autour de trou noir. Donc, il y aura la possibilité de regarder le déplacement de l'émission autour de trou noir et donc le déplacement de la matière autour de trou noir. Donc, ce sera une chose très intéressante qui peut être faite par Gravity, c'est la combinaison interférométrique des VLT. Il aura la possibilité de découvrir nouvelle étoile et avoir la possibilité de améliorer la précision pour la détermination des orbites des étoiles, et donc avoir accès à la précision des orbites et donc il aura la possibilité de faire des observations significatives pour la vérification de la relativité générale. Ça, c'est une image type qu'on espère de voir. On peut voir qu'il y a l'étoile ici et tous les lobes qui viennent de l'interférométrie, mais quand même on peut regarder les étoiles avec la définition d'un milliseconde d'arc. Et donc, on espère de trouver des effets de gravitational lensing avec ce type d'observation. Et en fait, j'ai cherché d'étudier le cas de Sagittarius Star pour trouver des observables qui peuvent être réalistiquement observés par Gravity. Et naturellement, on a considéré les étoiles, les S-stars, comme source pour le gravitational lensing. Et donc, avec mon collaborateur Luigi Mancini, qui è au Max Planck Institute a Heidelberg, on a cherché de faire une étude complète de ce qu'on peut réalistiquement observer avec Gravity, avec cet instrument qui entre en fonction la prochaine année. Et donc, il y a trois cas qu'on peut considérer. Le cas que les deux images formées par l'effet de l'anti gravitationnel ne sont pas séparées par Sagittarius Star. Donc, toutes les images sont confondues avec Sagittarius Star. Puis, il y a le cas l'image principale qui est détachée de Sagittarius Star, et donc on la peut observer séparément. Et puis, il y a le troisième cas, qui serait le meilleur cas, que toutes les deux images sont séparées de Sagittarius Star. Et donc, on a cherché de trouver les observables dans ces trois cas. Et ce graphe ici représente en plein avec les deux paramètres géométriques de la géométrie de l'effet de l'anti-gravitationnel. Cet angle gamma est l'angle d'alignement ici. Ça, c'est l'observeur est ici. Ça, c'est la lentille, c'est-à-dire le trou noir Sagittarius Star. Ça, c'est la source. Et donc, gamma, c'est l'angle d'alignement en degrés. Et cette distance DLS, c'est la distance de la source entre la source et la lentille. Et donc, on peut faire un graphe ici et représenter les trois régimes que je vous ai illustrés avant. Et dans cette plan, on a le régime 1 avec toutes les images confondues avec Sagittarius Star, le régime 2 avec l'image principale détachée de Sagittarius Star. Et le régime 3 est très difficile à observer. Il demande un angle d'alignement très petit, qui est pratiquement très difficile à réaliser. Mais quand même, on peut chercher les observables dans les trois cas. Et en tout cas, on a besoin d'un très grand alignement avec le trou noir. Mais quand même, on peut regarder où les S-stars sont positionnés sur cette graphe. On peut regarder qu'en fait, il y a la possibilité d'observer quelque chose avec Gravity. Et l'effet principal qu'on est sûr de voir, c'est le déplacement de l'image principale. Donc, toutes ces étoiles auront un déplacement qui sera majeur de 10 microsecondes d'arc, donc il sera observable par Gravity. Donc, pour toutes ces étoiles, on pourra mesurer l'effet de lentille gravitationnelle. Et ça, c'est une chose très intéressante parce que, naturellement, ces effets entrent dans la reconstruction des orbites. Ils doivent être combinés avec la reconstruction des orbites. Et on aura beaucoup plus d'informations sur la masse et sur la distribution des masses autour de Sagittarius et Star, donc il aura la possibilité de vérifier, d'avoir une description de l'environnement de Sagittarius et Star en utilisant l'effet lentille gravitationnelle. Puisque on voudrait chercher des effets beyond, au-delà. Merci. Au-delà de la relativité générale, et donc ça serait enthousiasmant, mais il est très difficile, mais il n'est pas impossible de voir quelque chose avec gravity, parce que si on observe un déplacement de l'image secondaire combiné avec Sagittarius Star, il aura la possibilité d'avoir une sensibilité ou effet post-newtonien, c'est-à-dire des effets qui vont au-delà de la relativité générale. Merci. Et puisqu'il aura la possibilité d'observer quelques effets qui dépendent par le spin, par le moment angulaire du trou noir, si on aura la possibilité d'observer des sources qui sont très près du trou noir, qui sont pratiquement sur le disque d'accrétion. Ah, c'est seulement le disque d'accrétion du trou noir. On aura la possibilité d'avoir accès au moment angulaire du trou noir. Et ça serait une autre chose très enthousiasmante. Oh, donc, je voulais dire quelque chose sur l'hypertélescope que le professeur Labadie a idée. Probablement, si on veut aller au-delà de ce qu'on peut faire avec les méthodes traditionnelles, avec les VLT, il faut avoir des idées nouvelles, des idées complètement différentes des méthodes traditionnelles de combinaison interférométrique des faisceaux de lumière. Et donc ça, c'est une chose très intéressante que j'ai appris avec le professeur Labadie, parce qu'il a la possibilité de faire des télescopes qui ont qui ont une résolution de l'ordre de 100 microsecondes d'arc. Ça, c'est la résolution que j'ai trouvée dans cet article. Donc, c'est la résolution qu'on expecte avec un métamiroir de l'ordre de 1200 mètres, c'est-à-dire le miroir qu'on espère de construire dans la vallée de l'Himalaya, c'est correct? Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 100 microsecondes d'arc de résolution? On pourrait faire beaucoup de choses en plus, vous pouvez imaginer. Et une grande chose pourrait être la possibilité d'observer l'image secondaire, la deuxième image des étoiles qui sont les sources de l'effet lentille gravitationnel. On pourrait suivre l'image secondaire dans leur trajectoire, qui est une trajectoire qui dépend complètement de l'effet de lentille gravitationnelle en pratique. Et on pourrait obtenir beaucoup d'informations de l'observation directe de ces images secondaires. Ça, c'est un cas qu'on a étudié dans ces articles de l'année récente. Et en fait, ça, c'est l'étoile S6 qui en pratique une image secondaire qui verra déplacée de plus de 100 microsecondes d'arc. Donc, il pourrait être observé avec un hypertélescope comme ça. Et ça, c'est la courbe de la luminosité de l'image. Donc, c'est l'image, qui on, de l'image secondaire a un pic de luminosité avec le, quand l'approche de S6 près du trou noir est maximum. Une autre chose qu'on pourrait faire, c'est, et ça, c'est une chose qu'un autre physicien, Amitai Bin-Nun, a étudié très récemment, pratiquement dans ces mois. Il a trouvé qu'il y a la possibilité, il y a la possibilité de vérifier l'existence de l'horizon des événements avec l'effet l'antigravitationnel. En pratique, si on a un horizon des événements, l'image secondaire existe toujours. Mais si on n'a pas d'horizon des événements, l'image secondaire existe seulement quand il y a un parfait alignement entre l'observer, la lentille et la source. Et donc, donc il y a la création de l'image secondaire, la création improvisée de l'image secondaire. Et donc, s'il n'y a pas d'horizon des événements, on devrait observer ces pics comme ça. Donc, on devrait observer des pics correspondant à la création de l'image secondaire. Et puis, on a le pic régulier comme on l'a avec le trou noir. Donc, si on observera ces pics comme ça, ces pics avec la création de l'image secondaire, donc on devra prendre la conclusion que Sagittaire Sestale n'est pas un trou noir. Si on ne l'observe pas, donc on pourrait dire OK, on peut mettre une limite supérieure sulla dimensione effective d'un objet correspondant, comme par exemple une étoile de boson, qui est l'objet alternatif qui a été considéré comme une hypothèse alternative au trou noir. D'accord, on est arrivé à la fin de notre voyage, donc je vous fais recommencer par une récapitulation en partant de la Voie lactée. En regardant la Voie lactée, on a découvert qu'il y a un centre de la galaxie qui est complètement obscuré de la poussière, mais on l'a observé dans les radio-ondes. On a découvert une mini spirale qui tourne autour d'un objet très compact, et on a toutes les indications pour dire que cet objet compact doit être un trou noir. Et donc ça, c'est l'image qu'on devrait voir la résolution nécessaire pour observer cet objet. Et donc, en retournant sur notre planète, on peut aller regarder la Voie lactée avec des yeux différents la prochaine fois que vous les regarderez. Et ça, c'est tout.